Donc on sera dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Si vous étiez là la semaine passée, donc papa a prêché sur les versets précédents, la dernière béatitude où Jésus dit donc heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés à cause de la justice. Et on a vu un peu un changement par rapport aux autres béatitudes qui sont seulement une phrase où là Jésus va vraiment décrire la vie du persécuté, mais aussi encourager ceux qui seront persécutés à cause de Christ, à continuer, à persévérer dans la foi, car il y a une récompense qui les attend. Et à partir de maintenant, donc, on ne voit plus les béatitudes et on va peut-être progresser un peu plus rapidement à travers le sermon sur la montagne. Ce sera pas un verset par semaine et peut-être vous dites, ouf, ça va aller un peu plus vite. Mais ici, nous allons voir la suite de l'enseignement de Jésus avec cette exhortation à être sel et lumière dans le monde. Et donc, je vais lire Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon, nous lisons ce passage qui est très connu. Beaucoup de chants que nous chantons sont à ce sujet. Avec les enfants dans la classe, des petits, chaque fois que je l'ai, je leur demande quelle chanson est-ce que vous voulez chanter. Bon, un des chants qu'on fait toujours, c'est cette flamme en moi, je veux la voir briller, qui vient aussi de ce passage de Jésus. Et pour bien comprendre, il faut simplement regarder à qui est-ce que Jésus est en train de parler lorsqu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Bien entendu, dans le sermon sur la montagne, il s'adresse à ses disciples. Mais c'est important de souligner que peut-être dans vos Bibles, vous avez une en-tête juste avant qui dit « lumière et sel du monde », mais que Jésus ici n'est pas en train d'interrompre ou de dire « bon, maintenant on commence une nouvelle section dans la prédication ». Il a dit « heureux serez-vous lorsque vous êtes persécutés », et tout de suite il enchaîne en disant « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et ici, Jésus est vraiment en train de continuer ce même enseignement qui s'adresse à ceux qu'il a avertis, mais aussi encouragés à faire face à la persécution. Dans son discours, donc Jésus, dans sa prédication, il marque ici une continuité. Et c'est ces mêmes disciples, même si bien sûr ça s'applique à nous aussi, mais c'est à ces mêmes disciples qui sont avertis et à qui Jésus dit « vous serez persécutés », qui dit maintenant « mais vous êtes sel et vous êtes lumière ». Et justement, Jésus se sert de ces deux images, et en fait de trois exemples avec ces deux images, pour appuyer son enseignement. Hein, c'est ce sel et la lumière. Et c'est des images, si vous lisez les évangiles en général, Jésus se sert de ces images plusieurs fois pour des enseignements différents. C'est des illustrations qui semblent être favoris. Il va parler de sel utile ou inutile lorsqu'il parle de disciples qui vont le suivre et leur besoin de tout abandonner. Il va parler de lumière qu'on doit mettre sur un chandelier ou sur un bâton au milieu de la pièce, non seulement pour parler ici des bonnes œuvres, comme on verra par la suite, mais aussi pour le fait que tout ce qui est caché maintenant doit être révélé et d'autres. Donc c'est vraiment des illustrations un peu multi-usages, mais que Jésus utilise dans un contexte particulier ici. Hein? Et ces deux exemples avec le sel, n'est-ce pas? L'exemple, c'est un sel qui sert à donner de la saveur. Et bien sûr, un sel qui n'est pas salé, un peu une idée curieuse qu'on va voir, vaut moins que de la poussière qui doit être jetée. Et avec la lumière qui éclaire, ben forcément, il y a les deux exemples qui sont donnés. C'est une ville située sur une montagne qu'on ne peut pas cacher et une lampe qu'on ne va pas couvrir avec un panier à mesurer, c'est-à-dire on va cacher entièrement. Si on allume une lampe dans une maison, on ne va pas la cacher. Et quand on lit un peu les sermons, les prédications, les articles, on voit que les gens ont pas mal creusé le sens de ces deux images, n'est-ce pas, de la lumière et du sel. Le sel, comme vous le savez, avait beaucoup d'utilité dans l'Antiquité. Mais les deux principales, bien sûr, c'est pour assaisonner, pour donner de la saveur au repas et aussi pour préserver la nourriture. Et est-ce qu'il faut chercher une métaphore particulière, hein, la vie chrétienne ou la vie du disciple de Jésus dans le sel? Et l'autre question qu'on pose, bien sûr, est-ce que le sel peut vraiment perdre sa saveur? À mon avis, il faut probablement pas chercher une métaphore trop exacte dans l'illustration que fait Jésus ici. Et d'ailleurs, il va pas vraiment s'attarder sur cette image du sel. L'idée qu'il faut surtout reconnaître ici, c'est que le sel est quelque chose d'utile dans sa nature propre. En fait, pour les Juifs de l'Antiquité, le sel avait une valeur proverbiale de quelque chose qui était fondamentalement nécessaire et utile à la vie. Dans un texte qui a été écrit entre la fin de l'Ancien et le début du Nouveau Testament, qui s'appelle le Siracide, on lit ceci. « Ce qui est de première nécessité pour la vie de l'homme, c'est l'eau, le feu, le fer, le sel, la fleur de farine, le froment, le lait, le miel, le sang de la grappe, l'huile et le vêtement. » Donc, il a fait, cet homme sage, Jésus ben Sirah, donc il est en train d'énumérer les choses. Et une des premières choses qu'il dit, bon, il faut du sel pour la vie. Et tout le monde avait besoin de sel. Et Jésus ici, donc, donne cette image en disant, bon, vous êtes ce sel de la terre. Okay? Vous êtes cette ressource dont tout le monde a besoin. Mais il va donner le contre-exemple d'un sel qui perd sa saveur. Et je crois que ce qu'il faut voir ici, c'est pas bon, est-ce qu'il y avait certains sels dans l'Antiquité qui parfois devenaient fades ou autre chose, mais plutôt, c'est Jésus donne un exemple absurde. Tout comme l'idée d'allumer une lampe et puis on va couvrir et cacher la lampe, c'est quelque chose d'absurde. C'est un gâchis et c'est un non-sens. Le problème avec du sel qui perdrait sa saveur, c'est contrairement aux autres aliments, vous savez, si je prépare un repas et les pâtes manquent de sel, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je peux juste ajouter du sel. Okay. Mais si mon sel manque de saleté, est-ce qu'il y a une solution? Bon, il n'y en a pas. Ça, c'est vraiment l'idée que Jésus veut donner ici. Le sel sert à saler, et s'il n'est pas salé, il n'y a aucune solution, seulement le jeter. Et avec cette image absurde, donc Jésus est en train de faire appel à ses disciples de comprendre leur utilité dans le monde. Ce serait un peu comme si on disait aujourd'hui, une montre sert à dire l'heure, et tout le monde la regarde. En tout cas, quand on est en Suisse, hein, on aime bien regarder nos montres. Mais si une montre est cassée, okay, à quoi sert-elle? Elle n'est que bonne à être jetée ou à être réparée. D'accord? Mais la différence, bien sûr, c'est que le sel, on ne peut pas réparer si elle perd sa saleté. Vous êtes le sel de la terre, dit Jésus, mais ne soyez pas un sel qui n'a aucune saveur, qui n'a aucune utilité. Et il continue en disant, vous êtes la lumière du monde. Et comme avec le sel, il faut, je crois, se focaliser d'abord sur cette notion d'utilité. La lumière est utile, mais aussi la lumière est visible. C'est des choses tout à fait évidentes qu'il dit ici. En même temps, la lumière, c'est quand même une image très parlante pour les Juifs, n'est-ce pas? Le sel, on trouve bon, peut-être quelques références dans l'Ancien Testament, mais la lumière, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Dès la création, n'est-ce pas, la première parole de la création, Dieu qui dit que la lumière soit. Jésus lui-même, en se décrivant lui-même dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et donc, c'est vraiment une image très, très riche. Mais je crois que ce qui serait parlant pour Jésus qui s'adresse à la foule ici, qui s'adresse à Israël, en quelque sorte, qui vient le suivre, c'est que Dieu avait parlé à Israël en disant « Vous êtes la lumière des nations ». Trois textes qu'on peut voir très rapidement. Un, c'est dans Ésaïe, chapitre 42, le verset 6, où Dieu dit à Israël, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Ça, c'est Ésaïe 42, verset 6. Il dit, « Je t'appelle pour être la lumière des nations. » Au chapitre 49, aussi au verset 6, la deuxième partie, Dieu dit, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans Ésaïe 60, le verset 3, Dieu dit, « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Et dans le message de Dieu à Israël dans l'Ancien Testament, il disait à Israël, « Vous êtes ma lumière dans le monde. Vous êtes ma lumière dans les nations qui vont me faire connaître à ceux qui sont là. » Et je crois qu'il y a vraiment cet écho ici quand Jésus est en train de dire aux disciples, qui sont des Israélites, qui sont des Juifs, ils disent, vous êtes la lumière des nations. Mais il continue, vous êtes la lumière du monde. Mais il dit, mais une lumière doit être visible. On ne cache pas la lumière. Et moi, vous savez, les mardis soirs, je fais l'étude biblique avec l'église à Genève. Et le soir, je rentre avec mon père en voiture. Et ce que j'aime bien, c'est quand on arrive sur l'autoroute un peu au-dessus de Morges, on tourne et tout d'un coup, on peut voir Lausanne, qui est sur le flanc d'une colline. Et si c'est pendant l'hiver ou pendant l'automne, il fait nuit, mais on peut voir tout Lausanne parce qu'il y a les lumières de la ville qui éclairent. Et on peut voir de très très loin. Bon, c'est des lumières électriques, mais de la même manière, on pouvait voir Jérusalem, on pouvait voir ces autres villes sur les montagnes depuis la nuit, de la nuit, parce qu'elles brillaient et on les voyait de loin. Et en plus, elles étaient sur ces collines. Et Jésus est en train de dire, vous êtes, vous mes disciples, vous êtes cette lumière du monde qui montre Dieu. Mais donc, il faut que vous soyez visibles. Et Jésus se sert donc de ces illustrations de sel et de lumière, autre part dans son enseignement, comme j'ai dit, il l'utilise dans d'autres applications. Mais ici, je crois que l'application est très simple. Et on va relire Matthieu 5, verset 16, parce que c'est ça que Jésus veut faire comprendre. C'est ça son message. Matthieu 5, verset 16, où Jésus dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Comme le sel apporte la saveur, comme la lumière éclaire tout ce qui est autour, pour que vos vies soient des lumières dans le monde, devant les hommes, et qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. En lisant ce passage, qui est très simple, je crois qu'il y a quand même trois idées fondamentales que nous pouvons appliquer à notre vie et qui sont importantes. Le premier, c'est que le peuple de Dieu est appelé non pas à se cacher, mais à être sel et lumière dans le monde. Comment est-ce que cela s'exprime dans la vie de tous les jours? Bon, comme nous avons vu, Jésus vient de décrire immédiatement avant toutes sortes de souffrances et de persécutions qui vont venir contre ceux qui suivent Jésus et son enseignement. Et Jésus fait même appel à l'exemple des prophètes. Et vous savez, les prophètes ont énormément souffert, les prophètes qui étaient fidèles à Dieu. Et quelle pourrait être la réaction des disciples à la persécution? Bon, une réaction assez naturelle, n'est-ce pas? C'est de dire, bon, persécuté à cause de Christ, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais me cacher. Je vais continuer dans ma foi personnelle avec lui, mais je ne veux pas me faire remarquer. Je vais être aussi discret que possible. Et donc, Jésus ajoute à son enseignement au sujet de la persécution un enseignement au sujet de la visibilité. Il dit, vous allez être persécuté, mais vous êtes des lumières dans le monde et il vous faut briller. Vous allez être persécuté, mais vous êtes le sel de la terre et vous avez besoin d'apporter la saveur. Et c'est un message difficile, mais un message absolument indispensable pour les disciples. La tentation, bon, c'est d'éviter la persécution. Peut-être pour nous qui ne sommes pas persécutés et nous sommes reconnaissants pour cela, mais c'est d'éviter la honte qui peut se rattacher au nom de Christ, d'éviter de se faire remarquer. Et ça peut être pour diverses raisons. On dit aux gens, bon, je suis chrétien, on vous dit, chrétien croyant ou non croyant, ou pratiquant ou non pratiquant. Et si on dit, bon, non, mais je crois vraiment en Dieu, je crois vraiment en la Bible, on peut se faire accuser de toutes sortes de choses, d'accord, d'obscurantisme, d'exclusivité, d'être des bigots, de toutes sortes de choses. Et nous sommes fiers du nom de Christ, nous sommes fiers de son amour, mais parfois on est tenté juste de se faire aussi discret que possible, parce que nous voulons éviter le regard des autres qui nous jugent. Et moi, je pense souvent à cette illustration que mon père a utilisée dans son enseignement quand j'étais plus jeune. Mais c'est le jeune qui est à la colo. Il va donc à une colonie chrétienne et pendant la colo, il décide non, je crois vraiment en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je veux donner ma vie à lui et il se fait baptiser. Mais il parle avec un de ses moniteurs. Il dit j'ai vraiment peur de rentrer parce que je suis le seul chrétien dans mon entourage. Tous mes amis sont non croyants et j'ai peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser quand je leur dis que je suis quand je rentre en tant que chrétien. Et donc, avec son moniteur, il prie tous les jours de la colo ensemble pour ce qui va venir. Et après, donc, le jeune rentre. Et le moniteur n'a pas de contact avec lui pendant quelques semaines. C'est la rentrée. Et il décide, bon, je vais l'appeler. Il l'appelle à la fin de la première semaine. Il dit, pour voir comment ça s'est passé. Et puis, il est au téléphone et le jeune est tout heureux. Il dit, comment ça s'est passé? Il a dit, c'était vraiment super. Personne n'a remarqué. Okay. Pour moi, quelqu'un qui lutte beaucoup avec cette idée d'avoir honte d'être connu comme chrétien en tant que jeune et parfois même Aujourd'hui, c'était très parlant. Est-ce que ça, c'est mon but? C'est-à-dire, j'espère que personne va remarquer que je suis chrétien. J'espère que personne va poser de questions. Bon, Jésus avertit contre cette attitude. Être un disciple de Jésus, ça veut dire être visible. Ce sera de différentes manières, bien entendu, mais le but de notre vie, c'est de ne pas être ceux qui disent « bon, personne n'a rien remarqué ». L'appel d'être disciple de Christ, c'est l'appel d'être sel, d'être lumière. Et ça, c'est des choses qui touchent le sens, n'est-ce pas? Qui changent quelque chose autour de nous. Mais s'il y a cette première idée de ne pas cacher notre appartenance à Christ, il y a une autre chose. Et c'est vraiment cet appel aux œuvres bonnes dans la vie. Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes qui voient vos œuvres bonnes. Et être disciple de Christ, ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste être d'accord avec certaines doctrines ou enseignements au sujet de Dieu et de Christ, mais c'est de faire des œuvres bonnes, concrètes, qui glorifient Dieu. Et quand on lit la suite du sermon sur la montagne, Jésus va décrire ses œuvres bonnes. Si on n'est pas sûr ce que ça veut dire, bon, il suffit de continuer à écouter Jésus. Il va parler de donner à ceux qui sont dans le besoin, de bénir tous ceux qui sont autour de nous, même nos ennemis. Il parlera de garder sa parole, de vivre avec justice et intégrité, etc., etc. Et il va continuer. Et si nous parlons, et je sais c'est pas ce que vous faites, mais si nous parlons de Jésus à longueur de journée aux autres qui sont autour de nous, si nous sommes très visibles en tant que chrétiens, mais nos vies ne sont pas pleines d'œuvres bonnes qui glorifient Dieu, vous savez, nous n'apportons pas la lumière dans le monde. En fait, nous apportons les ténèbres. Ceux qui parlent de Christ, mais qui vivent d'une manière opposée à lui, ne sont pas des lumières dans ce monde. Jésus donc demande, et avec fermeté, il dit à ses disciples qui sont appelés à vivre des vies pleines de bonnes œuvres qui glorifient Dieu. Et on glorifie Dieu donc par les paroles, par les actions, les bonnes œuvres que nous faisons. Et finalement, il faut dire aussi par la foi que nous exprimons au quotidien. On est sel, on est lumière, pas juste en faisant des œuvres bonnes. Vous savez, on n'est pas obligé d'être chrétien pour faire des œuvres bonnes. Il y a des païens qui vivent des vies morales exemplaires. Mais une chose qui différencie du monde aussi, c'est une vie de foi. Une vie de foi quasiment déraisonnable. Plus qu'une vie éthique, Jésus va décrire des gens qui font confiance à Dieu de rendre justice lorsqu'on subit l'injustice, qui ne cherchent pas à se venger ou même à faire recours eux-mêmes. Jésus va décrire des gens qui sont prêts à se laisser victimiser par ceux qui sont forts en faisant confiance à Dieu. Des gens qui sont prêts à ne pas se soucier de leur sécurité financière ou matérielle parce qu'ils recherchent le royaume de Dieu. Et ça, c'est une expression non pas morale, mais une expression de foi qui est différente du monde. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, cet appel à être des lumières, pas seulement par les paroles, mais par des œuvres concrètes et par une foi qui est déraisonnable aux yeux du monde. Mais une autre chose qu'il faut voir aussi, Jésus dit, il faut avoir une foi qui est visible. Il dit, il faut une foi qui est orientée vers les bonnes œuvres autour de nous. Mais Jésus dit aussi que notre élection en tant que disciple de Jésus, notre appel, n'est pas pour nous-mêmes, mais pour le monde et pour la gloire de Dieu. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? C'est notre vie, c'est pas pour nous faire plaisir. Et les bénédictions que Jésus nous donne, c'est pas premièrement pour notre propre bien, mais pour ceux du monde. Voici une réalité, d'accord? C'est que Jésus m'aime tellement qu'il m'a sauvé. Est-ce que vous croyez cela? C'est amen. Oui, ok. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? C'est que Jésus aime le monde tellement qu'il m'a sauvé, afin que je porte son amour dans le monde. Jésus m'aime, mais Jésus aime le monde et il m'appelle à faire partie de cette mission aussi. Et Jésus m'appelle à témoigner de l'amour et de la gloire de Dieu par ma vie. Et Jésus va donner une description de la vie du disciple qui n'est pas focalisée sur soi-même, mais plutôt qui est tournée vers l'extérieur, vers Dieu et vers les autres. Être disciple de Christ, ce n'est pas être replié sur soi-même, mais s'ouvrir à Dieu et au monde. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, okay? Pas le sel de votre propre ego. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous allez faire vos œuvres devant les hommes. Vous allez glorifier Dieu. Bon là, le but, l'objet de toutes ces œuvres, c'est les autres, c'est pas soi-même. Et certains ont vu, je crois, et c'est une question légitime, un peu un dilemme entre Jésus qui dit que les hommes voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu, et puisqu'on lit au chapitre 6, le verset 1, où Jésus dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, n'est-ce pas, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et la difficulté qui est là, la tension qui est là, disparaît lorsqu'on comprend ce que Jésus est en train de dire dans le contexte. Ici, dans Matthieu chapitre 5, Jésus décrit le but des œuvres bonnes, n'est-ce pas ? C'est de glorifier notre Père, c'est de glorifier votre Dieu. Mais plus tard, il va décrire le danger des œuvres bonnes. Le danger des œuvres bonnes, c'est qu'on les fasse pour se glorifier nous-mêmes. Le but, c'est de glorifier Dieu. Le danger, c'est qu'on s'en serve pour nous glorifier nous-mêmes, et cela ne fait pas de bien dans le monde. C'est trop facile de glisser de ces œuvres bonnes qui sont là pour Dieu, et de se glorifier soi-même. Et donc Jésus va encourager, dans la mesure du possible, de faire le bien en cachette et en secret. Est-ce que Dieu peut être glorifié par le bien qui est fait en secret ? Absolument. Même Paul écrira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5, verset 25, « De même, les œuvres bonnes se manifestent, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. » S'il y a un danger à le faire pour notre propre gloire, la réponse est deux. Bon, dans la mesure du possible, on fait le bien en secret. Et deuxièmement, quand on reçoit les félicitations, la reconnaissance des gens, on dit « Bon, c'est gloire à Dieu. C'est pour lui et à cause de lui et par lui que nous faisons cela. » Et nous faisons confiance que Dieu va se servir de ces choses. On regarde donc à Dieu dans les bonnes œuvres que nous faisons. Et on regarde au monde et à ses besoins. Jésus décrit ses disciples comme la lumière du monde et le sel de la terre. Le but est vraiment de faire briller la lumière pour le monde et pas de se focaliser sur nous-mêmes. Et un des dangers qui existe dans la vie chrétienne, dans les églises, c'est de commencer à voir la foi un peu comme un bien de consommation religieux, comme un service spirituel pour mes propres besoins. Et ça vient du fait, entre autres, que nous vivons dans une société qui est ultra individualiste et ultra axée sur la consommation. Et donc, cela va forcément affecter comment nous voyons la foi, comment nous voyons l'Église. Et de voir donc le centre du salut de la vie en Christ comme étant mon expérience et mes besoins personnels. Et voici simplement des mises en garde que nous pouvons prendre de ce passage. Si nos questions fondamentales sont toujours « qu'est-ce que Dieu va faire pour moi ? Qu'est-ce que l'Église fait pour moi ? Comment est-ce que Dieu répond à mes besoins ?» On comprend tout à fait la question. On comprend le sentiment qui est là. Mais c'est pas l'attitude que Dieu demande de nous en tant que disciples. Les questions que se posent les disciples sont « comment est-ce que je peux glorifier Dieu aujourd'hui par ma vie ?» Quelles œuvres bonnes est-ce que Dieu met devant moi pour les autres aujourd'hui ? Et comment est-ce que l'Église est une lumière dans le monde aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'elle m'aide à être une lumière dans le monde ? Et de nous mettre à nous poser ces questions qui sont moins naturelles, et de dire comment est-ce que ma vie peut s'orienter vers Dieu et vers les autres ? Les disciples de Jésus ne sont pas obsédés par eux-mêmes et par leurs propres besoins, mais par la gloire du Père Céleste et le bien qu'il peut faire aux autres. Bien sûr, la question se pose, bon, si tel est le cas, bon, qui va penser à moi ? Qui va s'occuper de mes besoins ? Et je vais vous dire un secret. Les gens qui vivent leur vie pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres sont comblés. Lorsqu'on passe notre vie à se concentrer sur soi-même, on va finir malheureux. Mais lorsqu'on passe notre vie à chercher la gloire de Dieu, à chercher le bien des autres, nos vies vont être comblées. Et même Jésus dira dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données de surcroît. » Il parle des besoins matériels, mais je crois que ça s'applique aux besoins spirituels aussi. Et l'autre bonne nouvelle, l'autre secret, c'est lorsque dans l'Église, chacun vit pour l'autre, bon, on finit par s'occuper des besoins les uns des autres. Dans une assemblée remplie de personnes qui mettent les autres avant eux-mêmes, les besoins de chacun seront remplis, parce que chacun est en train de prendre soin les uns des autres. Et nous, si nous voyons des lacunes dans l'assemblée, dans ce regard vers l'extérieur, dans les besoins que nous avons, et je crois que nous pouvons en trouver? La réponse, c'est de tâcher de montrer l'exemple par nos propres œuvres, de vraiment être les premiers à servir, à répondre aux besoins des autres. Bon, la vie du disciple, c'est une vie qui ne peut pas être cachée, que nous ne pouvons pas cacher à qui nous appartenons, mais une vie qui est là pour rendre témoignage devant ceux qui ne connaissent pas Dieu de qui il est. C'est des vies remplies d'œuvres bonnes et de foi qui sont visibles au monde. Et c'est une vie qui est orientée non pas vers mes propres besoins, mais vers ceux des autres et surtout la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous vivons de cette manière, nous sommes vraiment en train de répondre à l'appel de Dieu. Il y a ce passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, où Paul dit ceci, « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et nous croyons que Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour nous aider à mettre en pratique ces paroles de Jésus. Qu'il prépare les œuvres bonnes déjà. C'est pas à nous de trouver toutes les idées, de mettre en place tout le plan. Dieu est déjà à l'œuvre dans nos vies et dans le monde pour nous aider à faire cela. Et j'aimerais terminer juste avec deux défis très pratiques pour nous cette semaine, pour mettre cela en pratique. Jésus dit ces paroles un peu comme une introduction et comme une motivation pour la suite. Okay? Il dit, vous avez besoin d'être du sel, sinon vous allez être jetés dehors. Et la suite du message, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Donc, voici mon défi, c'est de lire le sermon sur la montagne cette semaine. Okay? Ce soir, avant de vous coucher, si vous pouvez, sinon tôt dans la semaine, de lire le sermon sur la montagne en entier et juste de choisir une chose. Ça n'a pas besoin d'être tout plein de choses, mais de choisir une chose que vous pouvez faire mieux ou que vous pouvez commencer à faire cette semaine pour mettre en pratique. Une seule chose. Et de le faire. De noter, mettre par écrit, voilà mon défi, voilà l'œuvre que je veux faire pour Dieu. De remettre ça à Dieu par la prière et de d'agir. Et je crois que ça, c'est vraiment important. De commencer avec un enseignement de Jésus, une œuvre bonne qu'il met devant nous. Et deuxième défi, un défi bonus mais important, trouver une occasion de témoigner de Christ cette semaine. Ça peut être d'aller trouver quelqu'un, dire « Est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus ?» D'accord. Si vous avez le courage de faire ça, pourquoi pas? Mais on peut témoigner du Christ de beaucoup de manières différentes. Vous pouvez parler de l'Église, de quelqu'un que vous connaissez de l'Église, ou de quelque chose qu'on a fait ensemble avec un collègue, un ami cette semaine, et dire « Bon, à l'Église, on a fait telle et telle chose », et voir où ça mène. Vous pouvez, dans une conversation, parler d'un passage biblique auquel le sujet vous a fait penser, juste pour amener le sujet. Ou simplement rendre gloire à Dieu quand quelqu'un vous fait un compliment ou dit « Ah, vous avez vraiment des bénédictions pour ça », dire « Bon, merci à Dieu pour cela ». Mais juste de témoigner d'une manière pendant la semaine de Dieu avec quelqu'un autour de vous et d'être de cette manière des lumières qui grandissent. Hein, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et l'encouragement très fondamental, c'est de vivre cette réalité au jour le jour pour la gloire de Dieu.